Vous êtes sur RTL.
Place aux infos RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir, ou plutôt welcome à la une. Le sourire de la Queen et les grimaces de son arrière-petit-fils Elisabeth, 96 ans. Et le petit Louis, 4 ans, star du jubilé de platine. Aujourd'hui au Royaume-Uni, nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux à Londres. Dès le début de votre journal, Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans ce journal aussi, les premiers mots d'Emmanuel Macron sur les incidents du Stade de France. Il redit sa confiance en son ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris. On tirera toutes les conséquences de ce match, assure-t-il. Et déjà, le prochain match à Saint-Denis se prépare. Ce sera demain. Match de l'équipe de France de foot face au Danemark. À suivre également, l'efficacité prouvée de la vitamine D face au Covid. Risque de mortalité réduit de 60% pour les personnes âgées. À Roland-Garros, les demi-finales dames avec la jeune Coco Gauff, en ce moment qui mène la danse sur le court. Et puis, les courses en nocturne à Longchamp. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 4, le 12, le 7, le 2, le 11, le 16 et l'As.
À 18h15, notre invité Tony Vérel, ex-star du foot français, condamné à 5 ans de prison pour violence avec armes. Il clame son innocence. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va enquêter sur le boom des réservations pour vos vacances, Cap au Sud, cette année. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du verdict, Johnny Depp, Amber Heard. Pourquoi l'actrice a-t-elle perdu? Soupçon de misogynie. À 18h40, on va défaire le monde, défaire le world, même ce soir avec Cyprien Signy et la bande. Good evening, Cyprien.
Good evening, les dessous d'un royal business, ou comment Elisabeth II est devenue la première influenceuse de la planète. Au menu également, Charles, 73 ans, est toujours en stage. Et puis le champion de France de fléchettes qui ne joue pas que dans les pubs.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et sa bande de polémistes. Et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Tendance orageuse du sud-ouest au nord-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
Le jubilé de la reine Elisabeth II.
70 years on the throne.
70 ans de règne.
On RTL.
C'est à vivre sur RTL.
C'était tout à l'heure, aux alentours de 13h20, explosion de joie de la foule lorsque la reine Elisabeth II est apparue au balcon de Buckingham Palace.
En ce premier jour de fête pour son jubilé de platine, 70 ans de règne, ces premières célébrations que vous avez suivies à Londres pour RTL, Mourad Jabari, bonsoir.
Bonsoir.
La souveraine de 96 ans que tous voulaient apercevoir.
Oui, le pas hésitant, bien aidé par une canne blanche, mais avec un large sourire dans un ensemble et un chapeau bleu ciel, la royale nonagénaire apparaît sur le balcon de Buckingham Palace. La foule se lève, certains ôtent leur chapeau ou casquette en guise de respect. Une vision, un soulagement pour Peter.
Elle paraît en bonne santé, c'est tellement bon de la voir aujourd'hui. On est tous réunis ici pour la voir et célébrer son jubilé. C'est vraiment trop bien.
La reine reste debout, sans vaciller pendant plusieurs minutes, comme pour rassurer ses sujets sur son état de santé, entourée de sa famille royale. Elle montre qu'elle est encore aux affaires. Un moment unique, même pour Elisa, une Française qui a fait le déplacement depuis Paris.
Franchement, c'était impressionnant. L'ambiance était super sympa, très festif, c'était magnifique. C'est un moment historique et ça n'arrivera plus jamais. J'ai la chance d'être là, je suis dans ma vingtaine. Je pense pas que je verrai une autre célébration des 70 ans de règne, hein, un jour.
Avant de disparaître du balcon, la reine agite gracieusement sa main pour saluer ses centaines de milliers de sujets regroupés sur le môle, ou plutôt pour leur dire au revoir. D'après certains dans la foule, c'était peut-être la dernière sortie officielle de leur reine.
Alors, si tout le monde voulait voir la reine, on l'a bien compris, il y a quand même un autre membre de la Royal Family qui a aujourd'hui attiré tous les regards.
Oui, il s'appelle Louis, le petit prince a tout juste 4 ans. C'est le petit dernier du couple William et Kate. Il s'est fait remarquer, pas parce qu'il est trop mignon, mais pour ses grimaces aux côtés de la Queen sur le balcon de Buckingham Palace. Il lui a même volé la vedette dans sa marinière bleu ciel. Kate, sa maman, a tenté de calmer le garçon un peu turbulent. L'air ennuyé, la bouche grande ouverte, les yeux fermés, se bouchant les oreilles au passage de la Royal Air Force dans le ciel londonien. C'était son premier défilé militaire et il n'a pas vu il a visiblement pas apprécié. L'air grave est conditionné par le protocole. Louis a réussi à rendre hilar la famille royale, arracher un sourire à la reine et devenir en quelques minutes la nouvelle coqueluche du royaume et star des réseaux sociaux.
On adore Louis. La photo fait adorable. Déjà le tour du monde. Mourad Jabari à Londres pour RTL pour suivre les célébrations de ce jubilé et en cette fin de semaine déclarée fériée. Ils ont de la chance, les Anglais. La fête se poursuit désormais dans les pubs et dans les rues un peu partout dans le royaume.
Oui, où l'on allumera aussi ce soir des sortes de feux de joie avant une messe demain à laquelle ne participera pas finalement le prince Andrew, hein, mis en cause pour agression sexuelle dans l'affaire Epstein. Le deuxième fils de la reine aurait été testé positif au Covid.
RTL Soir.
18h05. Il ne s'était encore publiquement jamais exprimé sur les incidents du Stade de France. Silence rompu cet après-midi, Emmanuel Macron a pour la première fois évoqué le sujet lors d'un déplacement à Marseille.
Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. C'est le cas aussi du préfet qui représente la République et l'ordre public et qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Et je pense qu'on continuera. La France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. On tirera toutes les conséquences de ce match.
Un soutien réaffirmé donc au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris qui se retrouveront ce soir, réunion Place Beauvau, pour préparer le match des Bleus demain au Stade de France contre le Danemark en Ligue des Nations. Objectif évidemment, éviter un nouveau chaos.
Alors le dispositif policier n'est donc pas encore connu, mais pour la Fédération Française de Foot, Nicolas Georgerot, ce sera un match comme les autres.
Oui, côté fédération, on parle d'un dispositif, je cite, « ordinaire » pour cette rencontre qui n'est pas classée à risque. Présence de 1400 supporters danois, sont prévus 1270 agents et stadiers pour notamment un préfiltrage classique pour les palpations et la fouille des sacs. Une vigilance toutefois pour éviter la pagaille de samedi dernier que personne ne veut revoir, rappelle Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, sur le banc demain en l'absence du sélectionneur endeuillé.
Ça donne une image désastreuse pour la France. J'ai pas de crainte particulière. Je pense et j'espère fortement que ça se passera bien. On est là aussi pour rendre les gens le plus heureux possible. Et c'est ce qu'on va tenter de faire demain.
10% seulement des billets sont des billets imprimés. La très grande majorité donc en version numérique. Les flux et l'acheminement des supporters jusqu'aux portes du stade seront scrutés de près. Les Bleus rejouent dans un Stade de France à guichet fermé pour la première fois depuis deux ans et demi, c'était en novembre 2019, face à la Moldavie.
Précision de Nicolas Georgerot pour RTL.
Alors, au-delà de ces incidents à Marseille, Emmanuel Macron a aussi parlé aujourd'hui éducation, aux côtés de son ministre Pape Ndiaye, avec cette annonce. Retour des maths en première à la rentrée prochaine, mais en option, hein, 1h30 par semaine. L'enseignement avait été supprimé du tronc commun. Ces maths, toujours donc non obligatoires, ce qui ne convient pas à Claire Piolti-Lamorte, vice-présidente de l'Association des profs de maths.
D'une certaine manière, il est encore à côté. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment le retour des mathématiques dans le tronc commun. Alors, bien entendu, c'est vrai que pour la rentrée 2022, ça semblait difficilement réalisable dans le délai qui était imparti. Et en tout cas, le programme qui a été proposé, en fait, ne nous convient pas non plus. D'une part, parce qu'il ne tient pas dans l'heure et demie qui est proposée. Et à la fois, il ne permet pas de réconcilier tous les élèves avec les mathématiques. Et nous, ce qu'on porte, c'est vraiment un souhait de mathématiques dans le tronc commun qui permettent à tous les élèves d'avoir cette culture commune qui est le sens du tronc commun.
La vice-présidente de l'Association des profs de maths, jointe pour RTL par Clément Terraa. Et Emmanuel Macron veut par ailleurs généraliser l'expérimentation marseillaise, c'est-à-dire l'objectif c'est de donner davantage de liberté aux directeurs d'école pour leur recrutement.
Et puisqu'on parle d'éducation, une pensée aussi ce soir pour tous les élèves de terminale, alors que Parcoursup rendra dans moins d'une heure maintenant, hein, ce sera à 19h, ses premières réponses.
On pense à eux. Votre journal se poursuit dans un instant avec cette étude sur les bienfaits, écoutez bien, de la vitamine D face au Covid. Baisse de la mortalité de 60%. Vous avez bien entendu, chez les personnes âgées. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier.
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal. Donc dans RTL Soir, avec cette piste qui avait été envisagée dès le début de la pandémie. Aujourd'hui, une étude le prouve. Oui, la vitamine D peut être efficace contre le Covid.
Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Étude menée par le CHU d'Angers sur 260 personnes avec un résultat clair. Hein. Une administration rapide réduit la mortalité de 60%.
Absolument. Les patients inclus dans cette étude étaient âgés, fragiles, susceptibles de développer une forme grave du Covid. Dans les 72 heures suivant le diagnostic, on leur a donc administré une dose de cheval, si l'on peut dire, de vitamine D, quand même 8 fois plus que la petite ampoule que vous prenez peut-être l'hiver. Une hormone naturelle dont on connaît les vertus anti-inflammatoires. Le professeur Cédric Anweiler, chef du service de gériatrie du CHU d'Angers.
On sait depuis longtemps que la vitamine D a un effet sur le système qui est perturbé par le coronavirus et qui entraîne, vous savez, ce qu'on appelait l'orage cytokinique, pourvoyeur de décès dans le Covid-19. Les résultats montrent une amélioration très nette dès le sixième jour après l'administration de vitamine D.
Et l'administration de cette forte dose, sans effet indésirable supplémentaire, a en quelque sorte empêché cet emballement inflammatoire. Résultat donc 60% de décès en moins par rapport au groupe contrôle qui, lui, s'était vu administrer une dose standard. Les médecins qui ont conduit cette étude recommandent donc ce traitement supplémentaire pour les malades âgés, fragiles. Aujourd'hui, les hôpitaux enregistrent encore une cinquantaine de morts en moyenne par jour et les plus de 80 ans représentent 60% des décès.
Mais précision signée Odile Pouget pour RTL, étude menée donc au CHU d'Angers, hein, aujourd'hui confronté à une coupure de courant. Les groupes électrogènes, heureusement, ont pris rapidement le relais. Coupure d'agents de l'énergie dans le nord et dans l'ouest ces dernières heures. Au moins 175 000 foyers touchés. Ils réclament une hausse des salaires.
On part à Roland-Garros maintenant avec les demi-finales du tableau féminin cet après-midi.
RTL Roland-Garros 2022.
Match que l'on suit avec vous, Isabelle Langer, avec en ce moment la jeune américaine Coco Gauff face à l'italienne Martina Trevisan. Apparemment un peu agacée. Hein.
Ah oui, un petit peu agacée, mais 1h26 de jeu. Et Coco Gauff, 18 ans, 23e mondiale, qui sert pour le gain du match. Elle mène 6-3, 5 jeux à 1 face à l'italienne Trevisan. Mais il faut dire aujourd'hui que Trevisan ne joue pas son tennis. Elle a plutôt ouvert la boîte à fautes. Imaginez un petit peu, 36 fautes directes depuis le début de ce match. Bon, il y en a quand même une vingtaine du côté de Coco Gauff. On va dire que ce n'est pas le match du siècle, mais le principal, c'est de se qualifier pour la finale. Et pour le moment, eh bien, avantage à Coco Gauff. Elle est à 3 points de cette finale contre la Polonaise Swiatek, qui a, elle, dévoré en 2 petits 7, 6, 2, 6, 1 la Russe Kazatkina. Elle a remporté quand même son 34e match d'affilée. Iga Swiatek, qui avait remporté le tournoi en 2020, qui est la grande favorite pour samedi.
Elle est incroyable. Incroyable.
Merci Isabelle Langer à Roland-Garros pour RTL.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain.
Encore orageux, Julien. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas de très très bonnes nouvelles parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Les orages vont reprendre déjà cette nuit par le sud-ouest, gagner la moitié nord demain matin. Alors, sauf entre la Bretagne et les bords de Manche, là le temps restera sec avec des éclaircies. Dans la moitié sud, beaucoup de nuages et quelques gouttes dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, reprise de l'activité orageuse entre les Pyrénées, le centre, la région parisienne, jusqu'aux frontières du nord. Alors, ce sont des averses passagères ponctuées d'orages, évidemment. Des orages également sur les Alpes et les éclaircies vont résister sur les bords de Manche. Un ciel sec et qui va se dégager l'après-midi entre le Languedoc-Roussillon, le Var et la vallée du Rhône, le tout sous des températures en hausse. De 20 à Cherbourg jusqu'à 25, jusqu'à 31 à Toulouse. Il fera 32 à Marseille et Grenoble, 27 à Paris et 25 à Abbeville.
Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre le toit sur le central de Roland-Garros pour les demi-finales, notamment celle de Nadal demain. Après-midi.
C'est fort possible.
Voilà. Ça change tout, ça, vous savez.
Mais je parle d'averse passagère. On est bien d'accord. Ce ne sont pas les trompes d'eau qui vont durer pendant des heures.
Très bien, c'est noté. Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et place maintenant à votre brigade. Votre brigade RTL qui s'interroge ce soir. Allez-vous partir en vacances cet été? Et où? À un mois et demi des congés scolaires, eh bien le site de Particulier à Particulier publie des chiffres qui sont assez édifiants. On va poser trois questions à cette brigade RTL. Bonsoir Eric Vanier.
Bonsoir.
Alors, hausse des réservations par rapport à 2019, c'est-à-dire par rapport au monde d'avant, plus 2,6%, c'est ça?
Oui, mais ça a été long à démarrer. Trop d'incertitudes en début d'année, la pandémie, la guerre en Ukraine, le prix des carburants, l'inflation et la période électorale, les Français n'arrivaient pas à se projeter sur l'été. Et puis, juste après l'élection présidentielle, ils se sont lâchés, problème de pouvoir d'achat ou pas, ils ont décidé de partir coûte que coûte, de ne pas toucher à ces moments privilégiés que sont les vacances d'été. Les réservations sont remontées en flèche, la semaine du 7 août est même déjà quasiment complète.
Et alors, ils partent où, ces vacanciers ?
Alors, pas trop sur la façade atlantique, car ils gardent un mauvais souvenir de l'été 2021. Pluie, nuages, fraîcheur, cet été pour avoir une assurance soleil. Les estivants vont donc privilégier le sud-est, dans toutes ses composantes, mer, montagne et campagne. Plus 30% de réservations sur la Côte d'Azur, plus 20% en Corse, mais forte demande également dans l'arrière-pays, avec des augmentations à deux chiffres, en Ardèche, dans la Drôme et dans le Vaucluse, dans les Alpes du Sud aussi. En revanche, à l'ouest, on fait grise mine. Entre Bordeaux et Hendaye, on n'a pas encore retrouvé tout à fait les niveaux de réservation de 2019. Baisse des demandes de location de 10% en Vendée et en Bretagne, et même de 20% en Normandie.
La carte de France de nos vacances avec la brigade RTL. Merci beaucoup, Eric. Toute petite pause et ensuite, dans RTL Soir, Tony Vérel sera notre invité, l'ex-star du foot français du Racing Club de Lens, condamné à 5 ans de prison ces derniers jours pour violence avec armes. Il clame son innocence, entretien juste après ça. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir toujours à vos côtés. Et notre invité maintenant est une ancienne star du foot français, gamin de l'AS Nancy-Lorraine, légende au RC Lens, buteur à Lyon, à Bastia entre autres. 8 sélections en équipe de France. Bonsoir Tony Vérel.
Bonsoir à tous.
Alors vous avez longtemps fait la une des pages sportives des journaux. Et puis ces dernières années, votre nom est apparu dans les pages faits divers. Vous avez été condamné il y a 15 jours à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour une bagarre, des coups de feu sur le parking d'une boîte de nuit il y a 10 ans. Vous faites appel, on va en discuter. Et vous racontez ces épreuves dans un livre, Balle au centre, qui sort aujourd'hui chez Hugo Sport. Il vous a fait du bien, ce livre, il était nécessaire?
Écoutez, ça fait, je crois, plus de 10 ans que cette affaire a eu lieu. C'est vrai que j'ai pris pas mal de choses en pleine tête. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer. J'ai pas pu le faire pendant mes 5 mois d'emprisonnement. J'ai perdu, je l'explique dans le livre, j'ai perdu ma voix après. Donc je pense qu'il y a eu un certain traumatisme de ne pas pouvoir s'exprimer.
Dans le livre, vous clamez toujours votre innocence et vous racontez précisément cette nuit où votre vie bascule, la nuit du 22 au 23 octobre 2011. Et elle bascule avec un coup de fil, c'est ça? Il est 3h du matin?
Oui, mon pauvre petit frère qui va en boîte de nuit. Et lui, il m'appelle à 3h du matin, je dormais. Et voilà, il s'est fait agresser par une dizaine de personnes. Je ne sais pas où je vais. Il est complètement paniqué et je le rejoins à partir de ce moment-là. À cause d'un quiproquo, on se retrouve sur le fameux parking. Tout bascule à ce moment-là, quoi.
Tout bascule à ce moment-là. Des coups de feu sont tirés. Vous dites... On n'a pas tiré, je n'ai pas tiré.
Depuis 10 ans, on a toujours clamé notre innocence parce qu'on n'a jamais tiré sur personne. Bien sûr qu'il y a eu des blessés ce soir-là et on est les premiers navrés de ce qui s'est passé.
Trois videurs blessés qui d'ailleurs ont aussi été condamnés avec sursis pour violence il y a 15 jours.
Mais ce qu'on essaie d'expliquer justement, et je le répète dans ce livre, c'est que j'aimerais comprendre aujourd'hui pourquoi je prends 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, au vu de tous les éléments, comme cette histoire de vidéosurveillance. Il y a une vidéosurveillance, on vient la réquisitionner 3 jours après. Au lieu de retrouver un enregistrement du parking, on y voit le concert des Enfoirés. Il y a une somme de pièces manquantes dans ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'essayer de se justifier?
Et pourtant, à l'arrivée, vous êtes condamné. Et voilà. J'imagine que vous devez aussi affronter aujourd'hui un regard dans l'opinion publique des gens qui se disent « Bon, ils ont été condamnés, ils ne sont pas innocents et peut-être que le clan Vérel se couvre. »
Bien sûr, non, mais on peut tout imaginer. Sincèrement, j'étais persuadé qu'à la sortie de cette audience, on serait relaxé parce que nos avocats ont vraiment fait un super travail, parce que c'est pas évident de se défendre, parce que on a toujours l'impression, c'est comme dans les films, vous savez, tout ce que vous pouvez dire pourrait être retenu contre vous. Donc même à cette audience, mais on a parlé, mais en essayant de respecter les personnes qu'on avait en face de nous, d'être toujours dans la retenue aussi. Pourtant, on sait qu'on joue notre vie, et à l'arrivée, quand le verdict est tombé, j'ai même cru à une blague, quoi, parce que je dis c'est pas possible, quoi. Les versions des videurs se sont multipliées, elles sont diverses. Elles sont... À un moment donné, c'est telle terreur qui a tiré. Et aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus qu'une seule arme qui a blessé les videurs, j'aurais soi-disant ramassé une arme alors qu'on m'a gazé, alors que j'étais sur ce parking en pleine nuit. Et alors je comprends pas.
Très rapidement, après cette nuit où tout bascule, vous vous retrouvez au commissariat, vous vous retrouvez ensuite, vous l'avez dit, en prison, détention préventive, 5 mois derrière les barreaux, et vous découvrez un univers que vous ignorez totalement. Vous êtes une cible potentielle en prison.
C'est dur parce que c'est un monde que je ne connais pas. Au départ, je me dis, on me parle de passer 10 jours aux arrivants, mais moi je dis, mais qu'est-ce qu'on me parle de 10 jours? Dans 3-4 jours, je suis sorti. Sauf qu'après, quand vous mettez le pied dans l'engrenage, bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comme au début, je voulais pas trop parler aux autres détenus parce que je savais pas à qui j'avais affaire, bah, vous restez dans l'inconnu, vous avez pas de nouvelles de vos proches, c'est l'horreur totale parce que...
C'est un difficile équilibre, c'est ce que vous expliquez dans le livre, entre ne pas faire de vagues, pour reprendre vos termes, et aussi se faire respecter, pour éviter d'être une cible parce que vous êtes connu.
Je savais que j'étais soupçonné de violence sur un parking, donc je voulais surtout pas avoir d'histoire en prison, je me faisais tout petit, même vis-à-vis des surveillants, tout ça, je voulais surtout pas qu'on pense que c'est monsieur Tony Vérel qui arrive en prison, bien au contraire, quand les responsables de la prison m'ont dit c'est peut-être mieux que tu restes au quartier arrivant, j'ai dit non, mais qu'il était hors de question que ce soit un passe-droit. En fait, c'était pas pour ça, c'est parce qu'ils avaient peur que ça puisse dégénérer.
Oui, puis cette détention, elle touche aussi votre famille. Vous racontez dans le livre que votre grand garçon, qui a 6 ans à l'époque, eh bien un jour, il prend son baluchon à la maison pour dire « je vais délivrer papa ».
Ouais, c'est terrible d'entendre ça, et heureusement, je l'entends après la prison, parce que si je l'avais entendu pendant ma détention, je crois que je serais devenu fou en prison. Et ça, là-dessus, ma femme a été très intelligente et très forte. Elle m'a pas dit que mon fils pensait, même au bout d'un mois, comme il n'avait pas de nouvelles de son papa, que j'étais mort.
Vous avez peur de retourner en prison, parce que là, il y a eu cette condamnation très récente. Alors, vous n'êtes pas incarcéré, la preuve, vous êtes ici dans ce studio avec nous, vous avez fait appel de la condamnation. J'imagine qu'il y a une crainte de retourner derrière les barreaux.
Bien sûr, bien sûr. Quand on voit toutes les souffrances, alors c'est pas la peur de retourner en prison parce que, entre guillemets, maintenant, je connais, mais c'est surtout la peur de tous les dommages collatéraux que ça peut engendrer. Et on se dit, mais au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on veut me dire à travers ça? Je comprends pas. Je comprends pas que ça puisse avoir cette issue, quoi.
Avec le recul aujourd'hui, si votre frère vous rappelait à 3h du matin, est-ce que le sens de la famille primerait toujours? Est-ce que vous réagiriez exactement de la même façon?
Bien sûr que je préférais ne jamais retourner sur ce parking. Mais si ça devait recommencer, je le dis d'ailleurs dans le livre, je veux dire, je recommencerais de la même façon, parce que tout ce que j'ai fait, c'était de bonne intention. Quand je suis allé chercher mon petit frère sur ce parking, je n'avais pas l'intention de faire de mal à qui que ce soit. J'avais juste l'intention de récupérer mon petit frère sur ce parking. Donc, à un moment donné, c'est facile de justifier. Et puis là, moi, j'ai la parole, donc c'est facile de dire je suis innocent. Mais j'ai quand même respecté pendant 10 ans la justice. J'ai jamais rien dit. Parce que justement, ce livre, j'ai voulu qu'il sorte après le jugement, parce que je voulais surtout pas qu'on pense que Tony Vérel cherche à se justifier, à s'innocenter. Non, j'ai laissé faire la justice parce que j'ai toujours cru en la justice. Et voilà, j'ai jamais rien dit, mais aujourd'hui j'ai besoin de m'exprimer parce qu'on ne m'a jamais entendu. C'est exactement, je prends dans l'exemple dans le bouquin, quand je prends ce carton rouge à Wembley, il y a toutes les images qui prouvent que j'ai rien fait, et pourtant je prends le carton rouge, le rouge, et j'accepte la sentence, je m'en vais sans faire de vagues, parce que c'est mon tempérament.
Fameux match entre Arsenal et Lens à Wembley, effectivement, qui doit rappeler des souvenirs à nos auditeurs sans et hors. Parce que vous parlez aussi beaucoup de foot dans ce livre. Et pour terminer, je voudrais avoir votre avis d'ancienne star du foot français sur votre regard sur ce que le foot est devenu aujourd'hui. Vous écrivez dans ce livre, le foot est devenu un sport individuel. Vous ne reconnaissez plus votre foot?
Je serai toute ma vie amoureux du foot. C'est ma vie de toute manière. À part ma famille, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tellement vécu des années dans des clubs où c'était une équipe de copains, c'était tous solidaires derrière les uns et les autres, qu'aujourd'hui, et à la fin de ma carrière, je ressentais que ça devenait beaucoup plus un sport individuel. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est le monde dans lequel on vit. Il faut vivre avec son temps. J'aime pas avoir des réflexions de vieux cons et dire voilà, c'était mieux avant. Il y a de très bons jeunes, des jeunes qui sont intelligents. Maintenant, ils sont dans un monde où il faut penser à soi-même. Et ça, j'aime pas cette mentalité-là. Parce que moi, j'ai été élevé dans une famille nombreuse où on avait une plaque de chocolat. Et on se faisait pas la plaque pour nous tout seuls. On était obligé de partager. Et c'est comme ça. Et moi, je trouve ça super beau.
Merci Tony Vérel d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous vous racontez donc dans Balle au centre, autobiographie qui sort aujourd'hui chez Hugo Sport. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci de m'avoir écouté.
Retrouvez ce témoignage sur l'appli RTL.
Et RTL Soir continue dans quelques secondes avec vos dessous de l'actu, les dessous d'un autre verdict. Johnny Depp, Amber Heard, misogynie, Star System, on va vous expliquer comment, pourquoi l'actrice a perdu. Et puis laissez-vous tenter dernière avec un jeune groupe de trentenaires dans le vent. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL Soir à vos côtés, 18h31.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Si vous allumez la radio, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité du soir.
Le soutien d'Emmanuel Macron à Gérald Darmanin et Didier Lallement après les incidents du Stade de France samedi dernier. Le chef de l'État a dit faire confiance au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris. 20% du territoire ukrainien désormais contrôlé par la Russie, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président Zelensky à la veille du 100e jour de guerre dans son pays. À Roland-Garros, l'affiche de la finale dames est désormais connue. Isabelle Langer, la jeune Coco Gauff, s'est qualifiée il y a quelques minutes.
Oui, l'américaine de 18 ans a éliminé l'italienne Trevisan 6-3-6-1. Elle retrouvera samedi Iga Swiatek, la polonaise numéro 1 mondiale, qui avait elle balayé Kazatskina, la russe 6-2-6-1. Ça va être une finale de la nouvelle génération. Iga Swiatek 21 ans, Coco Gauff 18 ans. On va se régaler.
Merci Isabelle Langer, on suivra ça évidemment avec vous.
Merci Marion. Le temps, Peggy, demain?
Très mitigé avec des averses orageuses du sud-ouest au nord-est. L'après-midi, ça ira mieux sur un quart sud-est, le tout sous des températures en hausse de 25 à 31 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous, maintenant, du verdict Johnny Depp, Amber Heard, le procès en Mondovision. L'actrice accusait Depp de violence conjugale. Eh bien, elle a perdu. Pire, elle est reconnue coupable de diffamation et elle doit lui verser 15 millions de dommages et intérêts. Elle ne sait d'ailleurs pas comment payer. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous avez suivi à Fairfax aux États-Unis ce jugement. Alors, vu d'ici, on se demande comment Amber Heard a pu perdre, mais en fait, elle a été critiquée à l'intérieur, à l'extérieur du tribunal, et des critiques notamment misogynes.
Oui, alors c'est vrai que la justice a parlé, hein, même s'il va y avoir appel. On n'a pas refaire le procès, mais il y a eu des propos et surtout des SMS de Johnny Depp, donc des traces écrites, qui logiquement auraient dû beaucoup plus scandaliser. Certains trop durs pour être cités à l'antenne, où il parle notamment de brûler son corps. En voici un autre déjà très cru. Johnny Depp évoque le physique de Amber Heard, je cite, « un marché aux poissons mous, sans intérêt, qui pendouille et qui est trop utilisé ». Hier, devant le tribunal, j'ai interrogé plusieurs femmes venues le soutenir, et elles me disaient que c'était l'effet de la drogue, l'alcool, qu'il n'a jamais caché ses problèmes et que le vrai sujet, c'était les mensonges de Amber Heard. Autre élément parmi d'autres, un avocat explique que globalement, les jurés aiment les stars et la plus grande star des deux, c'est bien sûr Johnny Depp. Alors c'est vrai que la plainte portait sur la diffamation, pas sur d'éventuelles violences, mais c'était corrélé dans cette affaire, bien sûr, et l'aspect violence domestique est passé au second plan.
Même le mouvement MeToo n'a pas franchement soutenu Amber Heard.
Non, alors très timidement, très tardivement, je vous propose d'écouter à ce propos Sydney. J'ai bien cherché hier, c'était la seule personne à soutenir Amber Heard devant le tribunal et elle est très amère.
Le mouvement MeToo n'a pas pris position avant la semaine dernière. Beaucoup se demandaient si Amber Heard perd le procès, est-ce que ça va avoir des conséquences pour MeToo? Je pense que le mouvement n'a pas bien géré toute cette affaire.
Alors la déclaration du mouvement MeToo dont parle Sidney, la voici. Ce procès montre comment les mouvements sociaux et politiques sont utilisés à mauvais escient contre des personnes qui sont censées servir. Alors ça ne va pas très loin. Et il commence à y avoir des témoignages de femmes confiant que le traitement infligé à Amber Heard ne les inciterait pas à parler en cas de violence domestique.
Les dessous de ce procès perdu donc par Amber Heard face à Johnny Depp. Merci Lionel Gendron depuis les États-Unis pour RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h passées de 34 minutes maintenant.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, place maintenant à Laissez-vous tenter dernière. Vous reconnaissez le petit générique, c'est le moment tous les soirs où on vous propose de bons conseils, de bonnes idées, des films à aller voir, des émissions de télé à regarder et puis des groupes de musique à écouter. C'est le cas ce soir. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous nous donnez des nouvelles d'un groupe qui s'appelle MPL.
MPL, c'est l'histoire de 5 garçons, de 5 copains qui en 2020, avec leur disque Étoile, étaient sortis de la confidence dans laquelle ils évoluaient depuis quelques années, en nous offrant des mélodies entêtantes et des textes tellement poétiques qu'on avait, il faut bien le reconnaître, souvent tendance à les écouter en boucle.
Balance sur mon corps, tu resteras bien au chaud, mon cœur bat si fort que je te veux dans la peau sans ombre au décor. La peur de te perdre un jour déjà s'évapore.
Moi, je me tape que des cœurs.
Ouais, je vous l'avoue. J'ai énormément écouté cette chanson, que des cœurs de MPL. Mais je vais pouvoir en écouter d'autres, puisque Bonhomme, leur nouvel album, est sorti la semaine dernière.
Qu'est-ce qu'il raconte, ce nouvel album?
Eh bien, la vie de ses trentenaires, un peu rêveur, pas toujours d'accord d'assumer une virilité abusive, transmise de siècle en siècle. Des mecs, des vrais, mais qui aiment aussi la tendresse, bordel. Et puis, il raconte aussi la mémoire qui se dissipe, l'envie d'avoir un endroit à soi, le monde de demain trop chaud, ou encore la disparition d'un être cher. Cinq garçons pleins d'avenir, en plein dans leur époque.
Là, là, dans la cour d'école, là, là, on ne pleurait pas. Là, là, les garçons qui chialaient se faisaient montrer du doigt. On improvisait des querelles pour se préparer, pour se préparer. Fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs. On en ferait des tonnes pour être bien sûr.
Bonhomme, c'est le nom du nouvel album de MPL. 8 titres sincères, poétiques, tendres. Un peu de douceur dans ce monde de brut, enfin.
Enfin, on en a bien besoin. Des textes et du cœur. Ça s'appelle MPL. Ça sort aujourd'hui, hein, c'est ça?
C'est sorti vendredi dernier.
C'est sorti vendredi dernier. Très bien. Vendredi dernier, l'album, allez l'écouter sur toutes les plateformes disponibles. Courez chez votre disquaire, ça existe encore.
Ah oui, et on adore les disquaires.
On adore les disquaires. Merci Julia.
À demain.
Ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et dans un instant, on va défaire le monde, plutôt défaire le world, même dans RTL Soir. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier en studio. Good evening, les amis.
Good evening.
On défait le monde so British. On va notamment défaire le business de la Queen et on va aussi se demander comment le prince Charles occupe ses journées.
Ouais.
Ça, c'est une vraie question.
Céline a enquêté toute la journée.
À tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.